Bonjour et bienvenue à Pacte Pot. Alors moi c'est TK, Terry Kaufman, l'américain de ce petit groupe d'amis réunis par le rugby. On est très content d'être là et dans l'heure au Super Bowl, je vais vous nommer par vos noms en américain, on va dire. Donc c'est Charlie Bayer from Massive
ouais,
Central.
Pas mal, Charlie. Pas mal. Je méritais pas un petit CB, tu vois, c'est pas mal. Oui, bah, ouais, Charlie Bayer d'Allemagne, comme le nom l'indique. Deuxième ligne au Massif Central de son état et j'ai eu la chance de jouer à tes côtés, mon ticket, à ton derrière plutôt.
Exactement. Et avec nous aussi, on a Theodore de Saint-Rémy qui a joué avec Racing Metro 92.
Ah oui, c'est ça, tout à fait. À l'époque, ça s'appelait le Metro Racing. C'était pas aussi classe qu'en Amérique.
Racing.
Ravi d'être là, les amis.
And also we have Albane. Yeah. Also, we're happy to have Albane Borrell from the Pink Rockets. Hi, Albane.
Hi, TK. Hello, everyone. C'est très drôle parce que tu as hésité sur la prononciation de mon nom, comme à peu près les 100% d'Américains que j'ai pu rencontrer quand j'étais aux États-Unis. Donc, on peut dire soit Albane ou soit Albane, pour information.
Je préfère Albane, moi.
Albane,
et voilà, ravi d'être avec vous ce soir. Effectivement, j'ose du stade français, si on peut encore me considérer comme j'ose, étant donné le temps non passé à l'entraînement en ce moment, mais c'est pour la bonne cause. Je travaille beaucoup.
Ah, et, temps et, pour moi, je bois à la vôtre.
Cheers, mate.
Parfait, ça marque la fin Théo de Dry January en fait.
Exactly.
Alors pour ça, ce week-end était super parce qu'il y avait plein de super rugby et j'ai pu boire ma première bière depuis un mois, donc j'étais très content. On va parler de tout ça et un peu de Super Bowl, je pense qu'on va démarrer par là. Je suis pas sûr si vous avez regardé le show le plus chaud de tous les shows, le truc hyper américain, le Super Bowl de ce week-end. Bon, c'était quand même minuit 30, ça démarrait et ça durait jusqu'à quoi, 4h30 du matin. Donc voilà, c'était Tom Brady et ses Tampa Bay Buccaneers qui a gagné contre les Chiefs de Kansas City et le jeune Patrick Mahomes à 31-9.
Confirmant la règle qu'il est très difficile de faire le doublé dans cette ligue avec des équipes qui ont des budgets très proches. Et donc, faire un doublé devient quand même un peu un exploit.
Oui, un tout petit moment sur Tom Brady quand même, ce qui était intéressant, il était avec le New England Patriots pendant toute sa carrière, et là, l'année dernière, bah, finalement, je pense que c'était un peu de fin de son période avec le Patriots, et donc tout le monde se posait la question, est-ce qu'ils ont gagné 6 Super Bowls ensemble, Brady et les Patriots, et tout le monde pensait, est-ce que c'était les Patriots, est-ce que c'était son coach, Belichick, ou est-ce que c'était à cause de Brady? Et je pense que là, avec Brady, avec le 7e, on sait.
Non, on sait, il est parti avec... son camarade Gronkowski, je crois.
Oui, c'est ça, Rob, The Gronk.
Et,
yeah.
Et ils appellent ça The Gronk Connection avec Tom Brady, ce que je trouve assez marrant. Et effectivement, pour les New England Patriots, c'est un peu la gueule de bois ce matin, parce que ça veut dire que finalement, tout ça, c'est merci Tom Brady, quoi. Un peu ouais, mais
en fait, ce qui est assez marrant, je pense que les vrais fans de Patriots, ils sont quand même contents pour Tom Brady. Je trouve que c'est un peu ça.
On est tous contents comme Tom Brady. C'est comme quand Roger Federer enquille un grand chelem. On est forcément contents.
Parce que moi, j'avais compris que Tom Brady, il avait un peu de Farrell en lui, de Owen Farrell en lui, et qu'on aimait bien ne pas l'aimer aussi.
Ouais. Oui, il y a ça. C'est vraiment ça, parce qu'il y a un peu l'homme parfait aussi. C'est assez marrant, parce qu'il y a...
avec ta femme parfaite, ouais, avec et tes petits matchs parfaits.
Exact. C'était assez marrant, parce qu'il y avait un de ses coéquipiers dans la Tampa Bay Buccaneers, qui était en train de pleurer après les demi-finales, parce qu'ils allaient vers le Super Bowl. Ils disent, mais pourquoi tu pleures? Il dit, on va au Super Bowl. Il a dit, non, on pleure après qu'on gagne le Super Bowl. Mais on pleure pas pendant demi-finale. Donc ça montre.
Et vous savez comment il a conclu tout ça en disant, of course I will be back. C'est-à-dire qu'il compte bien en enquiller un 8e.
Tu as parlé rapidement de Gronk. Il a 4 frères. En fait, c'est des barrettes américaines.
Génial.
Ouais. En fait, ils sont 5 frères. 4, ils ont joué dans la NFL. Et un, il était joueur de baseball professionnel. Donc, en fait, ils ont un site web pour les intéressés qui s'appelle Gronk Nation. C'est un peu les histoires des 5 frères d'athlètes, de sacrés athlètes.
Tu sais, ça me fait penser aux fameuses images... qu'on avait vu de Moscato et ses copains qui avaient imité les frères Quinel à table à la maison, qui bouffaient des sangliers entiers avec la mère qui faisait la taille des frères Quinel aussi. Et je pense que dans des familles comme ça, où les mecs sont énormes et le budget bouffe est énorme aussi.
On a une grande pensée pour la maman Toulagi aussi.
Bon, dernière chose pour le côté américain. Pour Major League Rugby, malheureusement, les gars, on a raté notre opportunité d'être drafté encore. Donc, ça s'est déjà passé.
Merde.
Ouais. Donc voilà. Dommage.
Mais on n'a pas fait nos vidéos à temps.
Bonne nouvelle, c'est que la saison va démarrer en fait le même week-end que la fin de l'oscillation, donc le 20 mars on peut regarder des Free Jacks against the LA Giltinis. Donc voilà, donc ça c'est la bonne nouvelle. Bon bref, mon bas militaire américain prend sa fin, on est content quand même de parler de rugby.
Est-ce que le spectacle de The Weeknd était bien?
Alors on ne débriefe que les spectacles quand il y a Gilo apparemment. Je vois que le ticket ne l'a même pas mentionné.
Je pense que c'était exactement ce qu'on attendait, en fait. C'était pas super.
And that's for you, The Weeknd.
Je pense qu'il va être trop fâché. Bon, je pense que ma minute américaine prend sa fin. Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter, les gars?
Oui, on peut quand même, je vois que tu passes un peu outre comme ça, que tu passes à côté, mais on rappelle quand même, on remercie Clégo qui est un peu plus vigilant que nous et qui nous a quand même rappelé sur Twitter que tu disais un peu n'importe quoi puisque le match de Super Bowl a été diffusé en France sur L'Équipe et pas sur TF1 comme tu l'avais promis. Il y a beaucoup de...
Exactement. Quelle erreur. Je pensais que c'était sur Arte en fait.
Quelle erreur.
Et oui, on souhaite aussi remercier une autre auditrice, Koubi Kouba, qui nous a gentiment recommandé auprès de ses copines du club de rugby de Fresnes. Donc, on vous salue les filles et n'hésitez pas à vous abonner et à en parler autour de vous. Continuez.
Bien sûr. Salut les filles de Fresnes. J'apprends qu'il y a un club de rugby à Fresnes. J'en suis totalement ravi.
À propos du club de rugby à Fresnes, moi, je salue John, mon petit Johnny, qui coach les seniors à 15, du coup, de Fresnes.
Parfait. Allez, on passe aux Six Nations, les gars.
Oh oui. Et bien volontiers.
Andiamo.
Oui, donc tout va bien dans le monde parce qu'on a des Six Nations et on a le hashtag Dry January qui finit. J'ai droit d'une bière et du rugby, c'est génial. Alors le match démarre et très vite les Italiens sont chez nous dans nos 22. Mais dans pas longtemps avec Thomas, Vincent et Villiers, on est sur les 2 mètres d'Italiens et c'est Crétin 7-0. Doulin assure en arrière, Crétin il voit des touches. Les Italiens ils essaient de marquer quelque chose, il y a 20 phases de jeu avec le ballon en main pour l'Italie. Mais ça marche pas. Finalement, un faute contre Crétin, ça donne 3 points à Italie. À 25 minutes, j'écris dans mes notes, pas vu Ficou, et hop, coup de pied à suivre de Dupont, et voilà, Ficou marque un essai. 4 minutes plus tard, Dupont est partout, 2 plaquages, un coup de pied dans un ballon perdu italien. Villiers le prend, redonne à Dupont, qui refile à Vincent avec un joli pass, essai encore pour Vincent. À 33 minutes, un Italien qui s'appelle Montana, il marque un essai et on voit un close-up de son tatouage d'Elvis sur la cuisse, mais l'essai est annulé car un léger en avant. Mi-temps 24-3 pour la France, 3 essais hyper rapides pour la France, qui n'est pas stressé, pas pressé, mais en grande vitesse. Donc dans le deuxième mi-temps, à 47 minutes, opportunité ratée, mais vous inquiétez pas, 2 minutes plus tard, un 1-2 avec Brice Dulin et Gabin Villiers, essai pour notre Dulin qu'on aime bien. 31-3 et à 54 minutes, quel essai. Tolitama joue un peu en 10, je pense. Il fait un super course. Il y a 2 mecs à l'extérieur, mais il repasse à l'intérieur pour Monsieur Dupont, qui marque un essai. 2 minutes plus tard, you get what you give. Et la même, mais sens inverse, Dupont qui passe pour Thomas, essai 45-3. Bon, désolé Théo, un essai marqué des Italiens à 65 minutes avec un joli cul de pied à suivre.
Et moi, c'est ce que j'aime. Aucun problème.
Et pour finir, un doublé pour Teddy Thomas grâce à un joli place claquette de Doulin. Donc, un sacré match et je pense qu'on était tous super contents.
Et oui, effectivement, tous super contents de cette reprise en grande pompe de nos bleus. Personnellement, j'ai passé un bon moment, même si j'ai envie de dire que voilà, c'est un match contre l'Italie, donc ça reste toujours un match où je trouve qu'on a... On a eu des moments évidemment très très efficaces. Hein, on l'a vu chaque ballon était très bien exploité par les Français, mais je trouve que les Italiens se sont, j'ai pas envie de dire ça, mais ils se sont quand même bien battus. Je trouve que dans les statistiques, ça se ressent aussi, parce que notamment, je crois qu'en première mi-temps, on a une possession qui est largement dominante des Italiens, et en tout sur la partie, la France fait quasiment le double de plaquage des Italiens quand même.
Est-ce que c'est une défaite encourageante pour les Italiens?
Et non, on va pas parler d'une défaite encourageante, on va parler d'une défaite très très encourageante, ou peu encourageante plutôt, non, mais c'est sûr que c'est difficile à comparer, mais je trouve que j'ai eu du plaisir en tout cas à regarder ces Italiens. Il y a une charnière, je trouve, qui a marqué des points. Elle est très efficace, notamment dans les bords de ruck, les retours intérieurs aussi autour de cette zone-là. Donc voilà, je trouve qu'il y a eu des bons franchissements. Après, ça manque de, de techniques, quoi. En fait, il y a beaucoup d'approximations dans les passes et les Français ont parfaitement su exploiter ces ballons qui traînaient. Donc, non, voilà.
Moi, pour rebondir là-dessus, d'abord, je suis entièrement d'accord avec toi sur la charnière Gabrizi et le demi de mêlée dont le nom m'échappe à l'instant, mais vous allez le trouver, qui sont tous les deux des joueurs vraiment talentueux, qui pourraient jouer dans d'autres équipes, le demi de mêlée en particulier, que je ne connaissais pas, parce que Gabrizi, on l'avait vu, on savait qu'il était bon, le demi de mêlée, vraiment, il m'a épaté.
Varney, de son prénom.
Varney, voilà, mais alors, moi, pour rebondir sur ce que dit Charlie, pour moi, c'est une défaite désespérante, parce que l'équipe d'Italie a relativement bien joué, et on a pris 50, donc c'est terrible. C'est terrible et se repose cette question de savoir s'ils sont à leur place dans le tournoi destination. Ils en prennent 50 chez eux en ouverture, en jouant honnêtement pas mal. Il leur manquait Jake Poledri, qui est très bon. Je pense que son absence a fait mal. Mais quand tu as une équipe en face qui est rodée et qui est niveau, le vrai niveau international, t'existes pas. À nouveau, très très dur pour eux. Voilà. Donc je dirais plutôt défaite un peu désespérante. Et à la décharge et à la charge des Français. Je dirais deux choses. Je trouve que à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. C'est un proverbe qui malheureusement se trouve tout à fait de circonstance avec un match comme celui-là. Mais souvent, avec une équipe d'Italie un peu faible, on avait du mal à les battre nettement. Mm-hmm. Or là, on l'a fait. Donc c'est aussi tout à l'honneur de ces joueurs bleus qui ont été au bout, qui ont pleinement joué et pas grand chose à dire, pas beaucoup de déchets, et franchement, des joueurs de classe, voilà, la petite passe à l'aveugle de Dupont, les cannes de Teddy Thomas, tout le reste à l'avenant, rien à dire côté français, contrat 100% rempli, quoi.
Je te rejoins aussi sur le triomphe et la gloire. Moi, je me trouvais peut-être un peu trop gourmand, je suis devenu trop habitué au luxe, je pense que je me rassaisis vite du luxe que l'équipe de France nous offre depuis 2020, et c'est vrai qu'en fait, c'est pas que je me suis ennuyé hein, devant ce match, mais il y avait un truc un peu genre, bon bah, enfin, ouais quoi, on est, ok, on confirme notre niveau, l'Italie, moi je trouve
confirme
que confirme
le sien,
ouais, c'est vraiment triste en fait, ce qui, enfin, franchement, je sais pas comment ils se motivent les mecs pour aller sur le terrain, mais bon,
c'est vraiment la question.
Et donc il y avait de ça. Après, je trouve que justement le côté, donc au-delà de ce truc quand même un peu pas ennuyeux, mais voilà, j'ai vraiment l'impression que la France révisait ses gammes. J'en veux pour preuve à la fin de la première mi-temps, il y a eu vraiment une touche où ils font directement au-delà des 15 sur le centre, Ficou pour l'attraper. C'est vraiment, t'avais plein de mises en place différentes, mais vraiment, on avait l'impression que la France testait ses combinaisons, ses lancements et tout. Il y avait un peu de ça. Donc, c'était un peu triste, mais bon, ma foi, oui, c'est joli à voir. La France a fait du beau jeu. Après, le vrai truc positif côté France, c'est qu'on se demandait quand même si elles allaient réussir à endosser la veste du leader, du patron. Là, clairement, ils sont arrivés comme des papas, et il y avait un petit truc que j'ai relevé, moi, pour appuyer un peu tout ça, c'est que sur l'essai italien, Olivon va quand même contester auprès de l'arbitre, s'il y avait, enfin, il demande à l'arbitre de faire appel à la vidéo, de savoir s'il y avait pas un en avant et tout. C'est-à-dire que même en leur mettant, il avait du coup ce côté un peu anglais dont on parle régulièrement, mais même en leur mettant un peu la tête dans le mot, quoi.
Et l'arbitre leur refuse un essai aux Italiens qu'il doit jamais refuser. Il va chercher un en avant de passe insupportable.
Ouais. Mais en tout cas, voilà, quand on voyait que les Français avaient envie d'y aller jusqu'au bout, même quand tu mènes de 40 de pion, vouloir quand même refuser l'essai à l'autre. Enfin, c'était preuve de cette taille patron qu'on attendait d'eux.
Fais pas ton British, Olivon.
Attends, mais c'est... Non, Théo, mais qu'est-ce qui se passe avec vous? Qu'est-ce qui se passe avec les Français? Vous êtes jamais contents. Soit on gagne pas assez, ou soit on gagne pas trop. Bah, soit c'était
mais
trop
bien
facile.
Bien sûr, c'est la base. C'est la base.
On est super contents avec cette victoire. On dit qu'il faut qu'on soit comme les British, ou on les tabasse. On les tabasse, et vous dites, ah non, il faut pas faire le British. Non, on fait le British.
Bah, déjà, tu te réjouis d'un cadavre comme ça. T'as l'Italie en sang qui rampe vers toi comme ça, et toi t'es heureux, sourire aux lèvres, genre
mais
ah
oui,
bah, quel plaisir.
J'ai kiffé ce match, franchement j'adorais ce match, j'étais, mais peut-être c'était mes deux premières pintes depuis un mois, et je me disais
c'est la bière, TK, c'est pas le match. Non, mais moi je te rejoins Charlie sur le sentiment, c'est que j'ai apprécié le match, mais c'est vrai que ça vaut pas un match où il y a une rivalité, où les Français font des fautes, tu te doutes sur le scénario du match, voilà, et je trouve qu'on C'est sûr que c'est agréable à regarder, mais voilà, on aime bien aussi les matchs où ça se bugger un petit
Bah ouais, c'est un combat où tu as envie de hurler au punching ball, genre do something, tu vois, genre
peu,
vie!
Et pour nos amis, et pour nos amis italiens, ça me fait penser à une équipe de top 14, tu vois, qui gagne pas un match de la saison, mais ça dure qu'une saison. Après, tout le monde s'en va, les mecs, ils retournent, ils se reconstruisent en Pro D2, tout ça. Mais là, ça fait 20 ans que ça dure.
Tu parles d'agence?
C'est interminable, j'ai rien
Moi,
dit.
je
C'est interminable. Et comment tu fais?
Bon, on finit un peu sur ce match. Moi perso, j'étais super content. Déjà, un petit truc que j'ai noté, Fabien Gauthier, qui était classe quand même dans sa costume, cravate un peu à côté, il était mieux sapé que le coach italien.
Ah, chic,
hein, ça, c'est pas
chic.
gagné déjà. Donc, je pense que vraiment, il y a quelque chose dans l'air. Je pense que peut-être on peut dire que tout le monde était bon, mais je trouvais Villière et Vincent magnifiques. Teddy Thomas, super, super match. Dupont, je pense, 4 ballons en main, il a marqué une AC, il a fait 3 passes décisives, c'est bien ça?
Il a eu 4
chose comme
ballons
ça.
En main, il a marqué 5 fois. Qui a lancé ce surnom, mais on voit un peu sur les réseaux sociaux apparaître le surnom de ministre de l'Intérieur. J'aime beaucoup.
C'est lui qui s'est appelé comme ça.
Ah, c'est lui qui s'est appelé comme ça.
Ouais, c'est lui qui.
Mais il est bon
Quand
dans
il
tout
avait
alors.
défini sa fonction de neuf, il se considère un petit peu comme le ministre de l'Intérieur. Et c'est effectivement un beau rôle. Et en tout cas, il le remplit mieux que notre. Non,
Pas de politique.
je ne dis rien.
No politics.
No politics, please.
Pardon, pardon, pardon.
Et je suis d'accord avec vous que Arthur Vincent a fait un très bon match et on redoutait un petit peu l'absence de Virimi Vakatawa et il l'a fait oublier avec brio. Donc
Énorme
chapeau à
match,
lui, c'est
ouais.
super.
Donc, ok, je pense que quand même, on était tous minimum un peu contents après ce match quand même. Et après le match suivant, on était sûr d'être aux anges parce que c'est l'Angleterre-Écosse. Allez, si on parlait de la rose contre le chardon, quelque chose que j'ai noté, que l'Angleterre, sur leur maillot, là, ils avaient la rose qui était couverte en or. Et je me disais, tiens, c'est un peu bizarre, est-ce qu'ils se sont mis déjà comme champions? Bizarre.
Ouais, bien qu'on puisse faire confiance à l'arrogance des Anglais, pour le coup, c'était pas le cas, c'était juste qu'ils avaient fait un petit maillot hommage à l'anniversaire des 150 ans de leur première rencontre contre l'Écosse, qu'ils avaient déjà perdu il y a 150 ans.
Ah,
voilà. C'était la minute
merci.
science.
J'ai aussi noté quand même qu'au niveau d'arbitre, on avait deux Irish et deux Français, donc ça va être peut-être pas mal ce match-là. Bon, si on va direct au match, on voit Mauro Itoje qui commence bien, il se fait sentir sa présence tout de suite avec un contre, mais 2 minutes plus tard, c'est le Scottish qui marque une première pénalité de Finn Russell, 3-0. Et après, ce match, c'est l'opposé de la France-Italie. Ça pousse, ça plaque et ça pousse. Le géant Itoje, il n'est pas content, donc il contre un autre coup de pied. Les Scottish, ils jouent comme ce match est vraiment important pour eux, comme ils n'ont pas gagné ici depuis 38 ans. Le numéro 8, Van Nistelrooy, il prend un carton jaune pour un plaquage haut. Entre-temps, Genge, le pilier anglais, souhaite gagner le coupe de cheveux le plus moche de tournoi.
Il a de la concurrence.
Ça prend 2 minutes pour les Anglais de faire un mêlée correct. Je trouve ça un peu bizarre, peut-être un peu de mauvaise foi. Russell manque un coup de pied de finesse pour Van der Mel, mais pas grave parce que 2 minutes plus tard, le même Vander McLeod marque son essai en force, 8-0 pour l'Écosse. À 33 minutes et 33 secondes, l'Angleterre marque ses premiers 3 points. Donc c'est 3-8 pour l'Écosse, qui donne tout contre l'Angleterre, qui n'est pas encore en vue. Les Anglais reviennent avec un pénalité de Owen Farrell, 8-6 pour l'Écosse, mais on sent bien que ça peut changer. Le week-end a joué pendant le mi-temps. Ah non, pardon, c'est pas ce match-là. Bah, allez, deuxième mi-temps, pénalité pour les Écossais, 11-6. À 51 minutes, petit échange de coups de pied, mais c'est l'Écosse qui gagne cette fois-ci. Hogg a fait un super match. Eddie Jones, pour la première fois depuis longtemps, on le voit sur le terrain pour motiver les troupes, mais est-ce que ça va marcher? Grosse bras de fer pendant les dernières 25 minutes, mais comme toujours, l'Angleterre finit avec le ballon en main, avec 1 minute à la fin, mais cette fois-ci, le destin est avec les hommes en kilt.
Ouais, 38 ans, 38 ans, c'est très très long hein, pour ne pas gagner dans un stade, donc les Écossais ont explosé de joie et leur entraîneur Gregor Townsend, à la fin du match, a dit... Voilà, une rencontre va tellement faire grandir mes joueurs. Et c'est vrai. Quand on vient se fracasser pendant 38 années successives sur les murs d'une citadelle, alors qu'il y a quand même eu des très belles équipes écossaises dans toutes ces décennies, faut mesurer quel exploit viennent de réaliser ces Écossais. Moi, je note notamment un joueur qu'on adore depuis quelque temps, nous, ici au Pack de Potes, c'est Amish Watson, qui m'a vraiment fait rêver. Oui. C'est vraiment le troisième ligne au four et au moulin. C'est intemporel, des joueurs comme ça, et c'est le mec que tu as envie d'avoir comme partenaire. Quoi. Il ressemble à rien, mais il est partout. Tu sais jamais d'où il sort, mais il est toujours là. Il est costaud, il est gaillard. En plus, il est coiffé n'importe comment. Même à la coiffure, ils les ont battus. Donc, non, moi, j'ai adoré la prestation des Écossais, en particulier celle d'Amish Watson, en plus dont j'adore le nom, j'adore tout chez lui, voilà. Je trouve que cette équipe anglaise qui nous a tellement fait rêver, et on l'a dit franchement, qui méritait d'être championne du monde, moi pourtant j'aime pas beaucoup les Anglais, mais je me départis pas de cet avis-là, ils ne se sont pas remis de cette défaite en finale de la Coupe du Monde, et je trouve que là, cette génération paraît complètement perdue. Et Eddie Jones qui dit à la fin du match, oui, parfois il y a des jours où vous n'êtes pas là, vous êtes à côté de vos pompes, il est encore plus largué que les joueurs sur le terrain. Donc je les trouve au 36e dessous. D'ailleurs, la presse anglaise a été très sévère avec eux. Pour moi, cette équipe qui a pourtant de grands joueurs n'est plus une équipe. Et ils en ont fait la preuve.
Ouais, c'est sûr. J'avais pensé à toi pour Amish Watson, parce que au début du match, j'ai cru qu'il partait à l'essai là. Il y avait une occasion assez franche. Et à propos de ces occasions, en fait, ce qui était assez marquant sur ce match, c'est qu'au final, le résultat un peu serré, il transparaît pas de ce qu'on a vu un peu, parce que les Écossais ont quand même laissé passer des points au pied.
Et ils ont dominé tout le match.
Et voilà. Et en soi, quand tu regardais le match, c'était assez. Je sais pas si on peut parler de domination, mais il y avait une sérénité en tout cas. Enfin, ils n'ont pas l'air d'avoir paniqué à aucun moment du match.
Ils ont mené tout le match déjà. C'est pas rien. Et franchement, quand tu vois, on en parlait dans un épisode précédent, quand tu vois le rugby moderne tel qu'il se joue aujourd'hui, les matchs de top 14 qu'on a qui finissent à 36, 34, 28, 26, avec des scénarios improbables et tout, là tu te dis, mais putain. On est retourné dans les années 90. Là. Qu'est-ce que c'est que ce truc avec finalement très peu de points, une attaque moribonde, aucune créativité. Ah ouais. Mais les Anglais, alors, ne montrent rien. À part de la confrontation, ils ne montrent rien.
Après, il y avait eu un petit clash, comment on dit. On a le droit de dire des clashs. Il y avait un petit souci. C'est Johnny May. Qui a déclaré que Farrell avait été complètement passé à côté de son match et qu'il fallait le remplacer pour
match. C'est la vérité, il a le droit de passer à côté de son match. Johnny May, par contre, m'a fait rêver sur son en avant dans la dernière minute. Franchement, là, Johnny May, il peut fermer sa gueule parce que franchement, il fait la couf qu'il fallait pas faire à la fin, quoi. C'est-à-dire, il te reste une petite chance encore de récupérer le ballon, ballon haut, paf, dégueulé, mêlé pour les autres, fin du match. Bon. Merci Johnny May, quoi.
Désolé les gars, c'est Théo qui boit, c'est moi qui dis de la merde, c'est Mike Brown qui a dit, c'est Mike Brown qui a mal parlé de Farrell, évidemment.
Oui, non, mais de toute façon, ces Anglais, je pense qu'il faut les oublier pour ce tournoi. Jones à côté de la plaque, Anglais à côté de la plaque, et vive la France.
Ouais, méfions-nous des bêtes blessées quand même.
Non, n'oublions pas qu'on va aller à Twickenham, ils vont être chauds.
Mais sur ce match-là...
Ouais, mais c'est vrai que c'est surtout cette équipe d'Écosse qui est de plus en plus impressionnante aussi, quoi.
Oui, c'est surtout parce que j'ai noté à 63 minutes, il y avait les remplaçants, il y avait un mec Neil qui est entré, qui, c'est, tu vois, c'est un pilier à l'ancien où il est
gros. Comment on voit que tu cherchais tes mots.
Comme les piliers aujourd'hui, c'est juste un mec qui est gros. Et ça m'a fait du bien, et avec un gros bidon, tu vois, qui dépasse son poitrine, tu vois. Aujourd'hui, c'est couche de mec avec des gros protéines, et après, le bidon qui est plus petit. Et là, c'est l'inverse, ça m'a fait du bien. Et après, il y a aussi Graham, un mec qui, avec un barbe mince, et finalement, ça m'a fait du bien de voir un vrai barbe dans ce tournoi, parce que ça fait. Ça m'a manqué.
Je rappelle quand même que les Écossais ont un Sudaf, hein, Van Der Meer.
Et que les Italiens avaient un Australien aussi.
Et le pack de potes, ils ont un Américain. Et voilà.
Le pack de potes, un Américain.
Et en fait, j'avais un petit pic de curiosité. Je me dis, Hamish Watson pense à devenir un star, parce que pour nous, à Pack de Potes, c'est un star déjà. Donc je disais,
depuis longtemps,
est-ce que il y a plus de succès pour des jeunes garçons? Donc je suis allé faire de la recherche pour voir. Et fait, finalement, bon, ça reste dans les top 50, c'est pas encore pris comme un nom dans les top 10, on va dire. Mais est-ce que vous savez un nom de garçon dans les top 10 en Écosse?
Theodore.
Exactly.
Ah, le bluff.
Théo. De mon côté, la mythologie familiale me fait descendre d'un Écossais venu faire souche en Normandie à la faveur de la guerre de 100 ans. Donc je ne vous dis pas à quel point ça me fait plaisir d'entendre ça, Thierry.
Allez, on passe dimanche et notre match de dimanche, c'était Irlande contre Pays de Galles. Et bon, Land of My Father, c'est la chanson des Gallois, mais en fait, impossible à chanter car c'est en gallois. On voit Sexton avec la tête rasée pour cacher les cheveux blancs. On voit qu'il n'y a que 3 Jones et 2 Williams sur le Pays de Galles.
Aucun Thomas, incroyable.
Voilà, et un seul Davies, donc un peu dérangeant. Tout doucement, mes yeux commencent à fermer pour le sieste de dimanche. Mais non, Tupperi qui lance un premier action sympa. Il n'y a pas de Josh Adams qui n'a pas respecté les règles de Covid, mais quand même, ça bouge pas mal. Pénalité par Lee Demisou, ou Lee Halfpenny si vous préférez, qui marque les 3 premiers points de ce match. Déblayage très agressif dans la tête de numéro 3 gallois qui était par terre. Carton rouge pour le numéro 6 Peter O'Mahony. Donc il joue à 14 contre 15. C'est pas gagné pour les Irish, mais ce n'est pas gagné pour les Gallois non plus. Le numéro 9 rouge joue très bien avec de l'urgence, c'est sympa à voir. Il plaque bien aussi. L'attaque galloise commence à rouler. Plaquage haut par Sexton. Halfpenny marque 3 points encore. On est à 6-0. 20 minutes de série assez intéressant par les Irlandais, mais pas de points. Mais pas mal de casse un peu partout, parce que c'est quand même du rugby. Alwyn Jones découpe tout le monde, parce que c'est quand même du rugby. Donc les Irish égalisent à 6-6, et bam, un minute plus tard, Henshaw fait un super percé, essaye pour le numéro 7, Van Der Flyer, super nom irlandais. Et c'est les Irish qui sont devant 13-6. Deuxième mi-temps, après 9 minutes, George North marque son 42e essai avec Pays de Galles et numéro 13 sur la liste de marqueurs internationaux. Coup de pied raté, 13-11, toujours pour l'Irlande. 4 ou 5 protocoles commotion cérébrale plus tard. Un essai pour le jeune espoir gallois, Rhys Zamet. 18-13 pour le Pays de Galles, avec 20 minutes encore à jouer. Sexton, il est assommé, il est remplacé par un jeune Burns. Échange de pénalité, 21-16, toujours pour Pays de Galles. Fin de match assez incroyable, un cascade d'erreurs. Pays de Galles qui redonne le ballon aux Irish, avec 10 secondes encore à jouer. Des Irish qui remontent le ball. George North avec un erreur bête. Penalty touche pour gagner pour l'Irlande. Mais non, Burns le tape mal, et voilà, fin du match.
Ouais, c'était vraiment dramatique, hein, cette fin de match. On était... parce que je pense qu'on était tous un petit peu irlandais à ce moment-là, vu les circonstances du match. Globalement, ce qu'on peut dire, c'est que c'était un vrai match de boucher, hein, vu la casse qu'il y a eu. Enfin, c'était vraiment solide, quoi. Ça se rentrait violemment dedans. Sur le carton rouge, qui est un peu le tournant du match, ça fait partie de ces cartons qu'on comprend pas trop, hein, j'avoue. Même si on le dit souvent, enfin bon, ça fait partie de l'engagement, ça fait partie du truc. Là, le ballon était sorti du ruck, il n'y avait plus rien à gagner dans ce ruck. Il y va, il y a une tête qui apparaît, il se dit, je vais mettre l'épaule, on va voir ce que ça donne. C'est un peu con. Et du coup, c'est ça qui joue sur le match. Après, au final, de jouer à 14, ça a fait que les Irlandais ont fait jeu égal avec les Gallois. C'est ça qui est un peu triste. On parle du déclin gallois depuis quelques matchs. Là, clairement, je pense que leur coach, il a poussé un ouf de soulagement à la fin, mais qu'il a bien serré les fesses pendant tout le match parce que les Irlandais n'ont rien lâché. Ça a été un beau match malgré l'infériorité numérique des Irlandais. Et c'était clairement un match où les bouchers ont laissé libre cours à leur art, quoi. C'était vraiment ça.
Donc ça t'a plu, évidemment. Ça t'a plu, Charlie.
Pour le coup, on va encore parler de deuxième ligne, mais Alwyn Jones, c'est 153e sélection, et puis il est encore là, quoi. Le mec, c'est incroyable.
Il fait un très beau match.
Il fait un très beau match. Les troisième lignes aussi, du côté irlandais, c'était Sigil Sander, qui est quand même, c'est un tank, le bonhomme.
Ah oui, et il mit le numéro 8 sur ses fesses, c'est assez incroyable.
Ah ouais.
Oh là là, ça doit pas être facile de penser à viser les genoux quand tu le vois monter, quoi. Ouais. Voilà, donc en tout cas, bon, ça nous fait reparler d'un deuxième ligne, mais c'était vraiment, je pense qu'il évoluait comme un poisson dans l'eau dans ce match de gros timbreur.
Moi, je reviens vraiment sur ce que tu dis, ce match de boucher. Moi, le combat physique m'a beaucoup impressionné, et très en contraste avec le match France-Italie, bien sûr. Et voilà, j'étais dans mon canapé en train de siester, j'avoue, et j'ai eu mal aux épaules pour eux. Donc vraiment, j'ai ressenti la douleur. Mais voilà. Ouais, match de boucher, je suis un peu chouchoute sur les bords, c'est vrai. Et voilà, mais je pensais vraiment que l'Irlande allait gagner ce match. Et je suis quand même contente que l'Irlande commence avec une petite défaite. Ça nous soulage.
On pensait tous que l'Irlande allait gagner presque à la fin. Parce que ce que nous fait le camarade Burns, et Charlie est passé un peu vite dessus, mais c'est complètement irréel. C'est-à-dire que la faute qu'il fait, alors que son équipe, à la 84e minute, a bataillé, mais un truc de fou, est reparti de son camp pour choper une pénalité sur les 40, et le mec n'est pas capable de trouver la touche. Mais vous, c'est une plaisanterie. Et après, on dit, ah, la succession de Sexton est compliquée. Mais les mecs, c'est inadmissible, cette faute. Et d'ailleurs, tu vois sa gueule à la fin. Il est mais ouais. dépité, et cette faute-là, il s'en rappellera toute sa vie. Parce que tu sors derrière Sexton, tu rentres derrière Sexton, qui est le patron, tu prends les clés du camion, il reste 10 minutes, tout le monde joue le jeu, tu te retrouves en position de faire gagner le match, quand même, au Principality Stadium, et tu prends pas la touche, tu trouves pas la touche. C'est un truc de fou. Même Charlie et moi, on la tape 10 fois la touche, on la trouve.
Même toi, Charlie.
Honnêtement, avec des pieds carrés, tu la trouves. Ce que j'ai adoré dans ce match, c'est le contraire absolu du match, en fait, Italie-France. C'est-à-dire que c'est un match avec une dramatique qui fait qu'on aime le rugby. C'est une tragédie grecque. T'y crois pas, t'y crois plus, finalement t'y crois. Les héros sortent à un moment de leur cage et ils y arrivent. Et c'est effectivement le jeune premier, le petit jeune Rhys Hamit, et puis après George North, qui est le mec éternellement là. Tu sais jamais comment il fait, mais il finit toujours par trouver un truc. Les Irlandais finissent par être fidèles à leurs valeurs, le fighting spirit, on y croit, on y croit, on y croit. Au passage, la deuxième ligne, Ryan et Tagbern sont énormes. Et le remplaçant Henderson, énorme aussi. Donc, gros temps quand même pour les deuxièmes lignes françaises de rivaliser avec ces trois mecs-là la semaine prochaine. Ouais. Et ça vient mourir en queue de poisson avec le mec qui ne trouve pas la touche. Et il est en larmes. Et il est là avec ses cheveux bouclés comme une petite statue grecque avec une petite larme, quoi. Mais voilà, moi, j'aime le rugby quand c'est comme ça. Je m'en fous qui a gagné, en fait, en réalité. Je suis juste dépité que Sexton ait pris un coup dans la gueule encore et va probablement jouer dimanche prochain. Je ne sais pas si vous avez vu la presse, mais c'est un truc de fou. Lui, il s'en fout, il dit « je m'en tape, moi je joue ». Ouais. Et c'est bricolage avec le médecin de la fédé irlandaise qui est ambiance FFR des années 80. Quoi. C'est le cousin de Ferras, médecin, qui signe les trucs à l'arrache derrière le bus. Quoi. Donc,
c'est pas pour me moquer, loin de là, parce que, mais quand t'as 35, enfin, quand t'es à un âge où certains ont déjà arrêté leur carrière et d'une façon jolie, enfin, où t'as pas de, où c'est pas grave, tu vois, de l'arrêter, tu dis insister comme ça, c'est vraiment genre le mec.
Le coup dans la gueule qu'il prend, il est vilain quand même. Hein.
Ouais, il est dur.
Tu le vois, il est à moitié KO par terre, tu vois qu'il est complètement relâché au sol, tu te dis. Et le mec, non, je vais jouer la semaine prochaine. C'est pas encore fait, mais c'est chaud quand même.
Bon, pour finir sur ce match, moi j'avais noté que The Leprechaun est de retour. Donc c'est un mec avec le petit barbichette, là, Gibson Park pour Irlande. Pour moi, il ressemble beaucoup à un leprechaun. Je sais pas si ça dit comme
Leprechaun.
Leprechaun.
Qu'est-ce que c'est que ce truc, un leprechaun?
Je sais pas quelle est la traduction en français. Un lutin, mais c'est un lutin.
C'est un lutin.
Ah, c'est un lutin. Oui. Ok, ça y est, j'ai compris, c'est un lutin.
Oui, non, mais c'est surtout que la semaine prochaine, on va retrouver ces Irlandais, à mon avis, peut-être en plus grande forme, et en tout cas avec un match qui s'annonce fort intéressant pour nos Bleus, et à mon avis très engagé physiquement.
Oui, moi c'est un peu ça que je crains, c'est que je pense qu'ils sortent d'une belle performance et donc confiance sur ce qu'ils peuvent faire, et en plus c'est de la frustration, donc motivation, et en plus on va chez eux et ça fait 11 ans qu'on n'y a pas gagné. Je pense que ça va être très solide.
Ouais, mais il n'y a pas de public.
Oui, donc pour le rappel, la dernière fois qu'on a joué contre Irlande, nous on a gagné, c'était 35-27, c'était quelque part en octobre. Et en fait, j'ai complètement oublié ce match, j'ai même regardé les stats et tout, mais j'ai pas de souvenirs. Mais vous pouvez écouter l'épisode 32 de Pack de Potes pour vous remettre dans le bain avant ce match-là, pour revivre le match en octobre. C'était qu'on a redémarré la Six Nations en octobre. Allez, donc d'autres matchs pour la semaine prochaine. On a Angleterre-Italie, ok, je pense qu'on sait qui va gagner celle-là. Écosse-Pays de Galles. Vous avez des pronos ?
Ah bah, il faudrait que les Écossais gagnent et qu'il y ait un match de fin de tournoi avec une sorte de finale Écosse-France avec, tu vois, tout le monde qui a tout gagné et le gagnant fait le grand chelem. Ouais, ça serait mythique. Hein ? On parle là-dessus, les gars ?
On parle là-dessus, moi je te donne mon portefeuille. Oui, non, mais sinon, comme autre actualité, en parallèle du Six Nations, qui n'a d'ailleurs pas lieu pour les féminines, et il a été reporté à avril, on a désormais les dates, donc ça va être une nouvelle perspective. Le tournoi des Six Nations va durer... Plus de 6 semaines, ça c'est une bonne nouvelle. C'est le championnat féminin d'élite qui ont repris ce week-end avec différentes rencontres, notamment entre Toulouse et le Stade français qui s'est joué à Ernest Vallon sans public, mais sur le terrain d'honneur, ce qui est déjà une première pour les féminines. Donc voilà, les différentes équipes se sont retrouvées et ça fait du bien, ça fait plaisir de voir du rugby non professionnel se jouer.
Mais le Stade français a fait quoi du coup?
Le Stade français s'est incliné face au Stade toulousain 33 à 7.
Ah merde, un peu comme le Stade français masculin. Enfin bref, on va pas arrêter.
Pour pas faire honte, c'était par délicatesse, pour pas que les messieurs aient trop honte là-dessus.
Je vous embrasse les filles.
Ouais, moi je vais pas dire que le Racing pendant ce temps-là a battu La Rochelle, parce que ce serait...
Non, le dis pas. Non, moi non, je le dis pas du coup. Je pense que c'est pas nécessaire.
Et voilà, je pense qu'on a tous passé un très très bon week-end de rugby. C'était un vrai plaisir de vous retrouver les gars.
Ouais, c'était top. Et alors, comment ça se passe du côté de un peu plus léger, le podcast de ceux qui veulent être un peu plus légers?
Ça va très bien, on est sur notre troisième épisode, le quatrième épisode qui sort ce vendredi. Donc vous pouvez trouver ça exactement où vous trouvez cet épisode de Pack the Pot.
Un épisode que je recommande à mon 5 de devant du massif.
Et entre deux tartines de Nutella auxquelles vous n'aurez pas le droit grâce à Tiki, nous vous invitons évidemment à continuer de nous suivre sur nos réseaux Facebook, Twitter, Instagram, pardon. Likez, commentez, partagez, invitez tous vos potes à nous suivre. C'est le moment de se plonger au cœur du Cination avec nous. Et on vous souhaite évidemment une bonne continuation de tournoi.
Allez, à très bientôt tout le monde. À la semaine prochaine.
Ciao, ciao les copains.
Salut les potes. Bye bye.
Salut.